que nous avions souvent tramée quand il cascadait dans les mots. Quand il sera vieux, qu'il ressemblera à Robert Mitchum.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, midi à Paris. Et tout de suite, RFI Midi qui vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. 2h30 ensemble avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux sur tous les continents. Et à la une aujourd'hui, les négociations entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des États-Unis, elles sont terminées. C'était difficile, dit le président Zelensky, alors que sur le terrain, les autorités ordonnent régulièrement l'évacuation de nouveaux villages.
La situation est terrible. Il y a sans arrêt des drones qui nous cherchent pour nous tuer. Même si on devrait être habitué, c'est juste effrayant. Quand tu sors de ta maison, tu regardes le ciel et ça vole. Ou alors ça explose quand c'est l'aviation. Dans le centre de mon village, tous les magasins ont fermé, il n'y a plus personne. Seulement une petite épicerie et puis c'est tout. Les gens partent, tous les enfants ont déjà évacué avec leurs parents.
Reportage de notre correspondant dans la région de Zaporijia à écouter dans une demi-heure. On en sait aussi davantage sur les Africains enrôlés aux côtés des forces russes dont nous vous parlons depuis quelques jours. Détail dans un instant dans le journal. On parlera aussi dans RFI Midi de l'avenir de Gaza que le gouvernement israélien n'envisage pas autrement que sous son contrôle et il a l'appui des États-Unis. La situation est telle qu'il est désormais indécent de parler de processus de paix. C'est ce que dit le chercheur Jean-Paul Chagnolo. Il sera notre invité dans un peu plus d'une heure.
RFI.
Au sommaire également, la tempête politique en France, la récupération par certains partis aussi. Après la mort d'un militant nationaliste d'extrême droite la semaine dernière, plusieurs interpellations ont eu lieu hier, dont des membres du groupe dissous d'extrême gauche, la Jeune Garde, proche de la France Insoumise, en difficulté et dont le leader a pris la parole hier.
Dans la violence, qu'elle soit défensive ou offensive, tous les coups ne sont pas permis. On se déshonore lorsque on ne calcule plus la portée de ses propres actes et que l'on frappe d'une manière qui, de toute évidence, comporte le risque d'infliger la mort. Ceci étant dit, il n'y a jamais eu un guet-apens monté spécialement contre lui, même si en effet, à la fin, il y a une violence tout à fait insupportable qui s'est déchaînée contre lui.
Pas sûr que Jean-Luc Mélenchon ait réussi à faire retomber suffisamment la tension. On en parle dans une dizaine de minutes. Nous irons également en Haïti, dans un hôpital géré par Médecins Sans Frontières. C'est l'un des rares qui fonctionne encore à Port-au-Prince.
Je me réveille à 4h du matin pour arriver ici vers 6h. Je viens en camionnette, en transport public. Il y a d'autres hôpitaux privés où je pourrais aller, mais je n'ai pas l'argent pour les payer. Alors je viens ici.
Reportage de nos envoyés spéciaux à écouter tout à l'heure, juste après le journal de 13h, temps universel. Nous serons aussi en ligne avec le chef de mission sortant de Médecins Sans Frontières en Haïti. Voilà pour le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Les révélations se multiplient concernant les ressortissants africains enrôlés de force par la Russie pour aller combattre en Ukraine.
Des Kenyans ayant combattu sur le front ont dévoilé les mécanismes du recrutement. 95 d'entre eux ont pu être identifiés par les autorités selon un document confidentiel rédigé par le ministre des Affaires étrangères, Moussalia Moudavadi, que le quotidien The Nation a pu consulter. À Nairobi, les explications de Gaëlle Alex.
Parmi ces Kenyans enrôlés, 27 ont été rapatriés, 8 sont présumés morts, 33 sont de nouvelles recrues et le statut des 9 derniers reste inconnu, détaille le mémo du ministre des Affaires étrangères daté du 9 février. Certains de ces individus sont d'anciens membres de l'armée, du service national de la jeunesse et de la pénitentiaire, poursuit Moussalia Moudavadi. Il ajoute que ces recrues ont volontairement signé leur contrat militaire et s'inquiète des tentatives de désertion. Cela représente un risque diplomatique, écrit le ministre, car notre ambassade pourrait être perçu comme facilitant des actions frauduleuses. D'après la chancellerie kenyane à Moscou, les recrues reçoivent un premier paiement de plus de 2,5 millions de roubles, presque 30 000 euros, 3 semaines après la signature du contrat. Ils touchent ensuite 320 000 roubles, 3 500 euros chaque mois. Des primes de 3 et 14 millions de roubles sont prévues en cas de blessure ou de décès. Le ministère essaye encore d'établir si les combattants kenyans ont bien reçu leur dû, écrit Moussalia Moudavadi. D'après le ministre, le Kenya a demandé à Moscou d'être placé sur une liste de pays dont le recrutement militaire des ressortissants est interdit. Gaëlle Alex, Nairobi, RFI.
En attendant, la guerre se poursuit et la Russie a de nouveau massivement bombardé l'Ukraine la nuit dernière.
À Genève, côté diplomatie, l'émissaire américain Steve Witkoff a salué une avancée. Les Russes estiment que les discussions ont été difficiles mais professionnelles. Les Ukrainiens estiment que les positions divergent sur les points clés. Des échanges apparemment très tendus sur deux jours, désormais terminés entre les délégations de Kiev et de Moscou sous l'égide de Washington. Une nouvelle réunion est annoncée sans plus de précision pour le moment. Les négociations tournent toujours autour du plan de paix américain, prévoyant notamment des concessions territoriales de l'Ukraine en échange de garanties de sécurité occidentale.
L'Ukraine qui dénonce la décision prise par le Comité international paralympique.
Celle d'autoriser 6 athlètes russes et 4 biélorusses à participer aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina sous leurs drapeaux nationaux, des drapeaux de régime qui ont fait, selon Kiev, du sport un outil de guerre, de mensonge et de mépris. Une autorisation qui ouvre la voie à une réintégration plus générale des deux pays au sport mondial à 2 ans des Jeux olympiques de Los Angeles.
Un partenariat sans limite et en pleine accélération.
Le président français Emmanuel Macron poursuit sa visite en Inde avec le premier ministre indien Narendra Modi. Ils ont convenu de renforcer leur coopération de la défense à l'intelligence artificielle face aux tumultes géopolitiques et commerciaux générés par Donald Trump. Ce soir, les deux dirigeants vont inaugurer à New Delhi le sommet mondial consacré à l'IA, un sommet qui est en fait déjà ouvert depuis lundi. L'enjeu est colossal pour l'Inde, plus de 100 pays, 30 chefs d'État ainsi que les patrons des géants de la tech sont attendus. New Delhi entend mettre en avant, Abdullah Irali, de jeunes indiennes engagées dans ce secteur stratégique. Reportage.
Les meilleurs talents féminins de l'IA indienne pitchent leurs projets face à des entrepreneurs réputés. Elles cherchent ici financement et mentorat. Padma, de retour des États-Unis, veut offrir l'accès aux soins médicaux aux Indiens des campagnes isolées.
En Inde, beaucoup de gens vivent à la campagne, 60% de la population. Il manque de services de base. Notre priorité est d'utiliser les technologies prédictives pour aider ces communautés défavorisées.
Cette directrice technologique a conçu un écosystème de santé complet piloté par l'IA. Il est destiné au village de l'Uttar Pradesh, souvent privé de médecins.
Auparavant, les patients devaient attendre le passage des soignants le lendemain matin. Désormais, ils identifient leurs symptômes seuls et puis ils peuvent être mis en relation avec un médecin parlant leur dialecte.
Mon projet, c'est Redline Delhi.
À 15 ans seulement, Nora présente déjà un algorithme pour fluidifier le trafic autour de son collège à Delhi. Elle fait aussi équipe avec sa sœur jumelle, Donna, qui utilise l'IA pour un autre projet, recycler le plastique en textile.
EcoThread, c'est la fusion entre technologie, mode et climat, conçue par et pour la génération Z.
Les deux sœurs ont déjà présenté leurs travaux aux Nations Unies à Genève, ainsi qu'au Sommet du développement durable de Harvard. Abdullah Irali, New Delhi, RFI.
Le géant américain de l'informatique Microsoft, de nouveau accusé de profiter financièrement de la lutte contre l'immigration aux États-Unis.
Au moment où les méthodes DICE, la police de l'immigration, suscitent l'indignation et la condamnation d'une grande partie de la population, et même au-delà des frontières des États-Unis, une enquête de plusieurs médias montre à quel point Microsoft est devenu un facilitateur de cette politique d'expulsion de masse. Bonjour Nathanaël Vitran.
Bonjour.
Ce n'est pas la première fois que l'entreprise est mise en cause.
Non, en effet. Microsoft avait déjà fait l'objet d'un appel au boycott en raison de ses liens avec l'armée israélienne, révélé l'an dernier par plusieurs enquêtes fouillées, notamment d'Associated Press et du Guardian. Le journal britannique s'est d'ailleurs associé au magazine israélo-palestinien Plus 972 pour montrer à quel point la police de l'immigration aux États-Unis, cette fois, s'appuie donc sur les logiciels de Microsoft et notamment ses outils d'analyse par l'intelligence artificielle pour mener à bien ses rafles anti-migrants. L'entreprise fait partie des nombreux bénéficiaires de l'augmentation exponentielle du budget de la police anti-immigration, passé en un an de 10 à 85 milliards de dollars. Et pour remplir les quotas d'expulsion fixés par l'administration Trump, eh bien ICE croise de multiples données, publiques et privées, pour identifier les sans-papiers, des données stockées sur des serveurs fournis par Microsoft. Elles ont triplé l'an dernier. D'après le Guardian, ICE héberge désormais 1400 téraoctets de données sur les serveurs de Microsoft, l'équivalent de 480 90 millions de photos, sans qu'on connaisse l'usage précis qui est fait de ces documents. En décembre, l'entreprise avait reconnu bénéficier de contrats avec le département de la sécurité intérieure, mais démenti fournir des outils d'intelligence artificielle spécifiquement dédiés à la lutte contre l'immigration.
Nathanaël Vitran.
Des divergences persistent pour les Américains. Les Iraniens, eux, saluent une séance constructive.
Et les négociations indirectes entre les deux pays se sont terminées à Genève sur la perspective d'un possible accord sans garantie.
Thank you. Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
Sidlala sijulukiswa ilanga lasemini sikitazwa maphupho cause our hopes the new no ceiling laliningi themba kithi from the very beginning abanye abangani basishiya endleleni but for those of us still left behind a silver lining cause stories never lie and feelings cease to die no matter how far I roam nothing is a clone to home here's where opportunity has a responsibility gifuna ukuthekhaya baziqhenye ngami there's a plan for all our lives please hear this from me umhlaba uyahlaba kodwa inkulunkulu yazi lalela badala mabethi umhlabo wethu mabethi sinakhile ngezandla zethu mabethi sinithande ngomthandazo wethu umdali ngempela wanenhloso ngathi
MC, DJ Wack à la prod. Me revoici, déclencheur de frénésie. Le MC plus montré du doigt qu'une étoile filante dans la nuit. Dit MC, j'ai pris en main mes connaissances, c'est comme on lit un bouquin. Moi je récite ma science. Pourquoi? Car la musique remplace les livres. Parce que les jeunes sont éduqués par 50 Cent et Britney Spears. J'ai constaté avec mes frères de la cité que la morale pour fonctionner doit être musicalisée. Dis-moi, qu'est-ce qu'on propose aux gamins? Si ce n'est le vice à portée de main, si ce n'est la cuisse et le vin. Nos enfants sont un créneau porteur, donc on mélange jus et bière et on ajoute de la couleur. Cocktail Molotov pour esprit à peine formé, qui va concevoir la vie comme une grosse tasse P. On leur a donné les clés du plaisir, mais la porte de l'éveil reste impossible à ouvrir. Qu'est-ce qu'on leur propose d'Arabie sans tenue pour que nos filles même habillées soient comme si elles étaient nues? À moitié nues sur les programmes télé, sur les affiches publicitaires, sur numérique et papier, sur les GSM ou dans les rues de Saint-Denis. Beaucoup voient la femme comme l'objet d'une nuit. Alors dis-moi, c'est la faute à qui? Regarde-toi dans le miroir, toi le parent abasourdi. Quand tu laisses ton membre regarder MCM, sais-tu que 50% des clips sont faits d'images obscènes? Sais-tu qu'à travers son hip-hop passe trop d'injures et pour coller à son idole il te crachera à la figure? Vois-tu que la règle prônée dans certains jeux, c'est de tuer ou escroquer pour être le roi des mafieux? À travers la violence, acquérir le respect, c'est ce que ton gosse apprend sur l'écran de sa PSP. Aux parents ignorants, bornés, aveuglés, voici un message clair, prenez le temps d'écouter. Aux parents isolés, désolés, dépassés, qui ont vu dans la jouissance la seule façon d'exister. Vous créez une génération perturbée, obsédée, formatée. Vous créez les bases d'une société, sans morale, sans tabou, condamnée à s'effondrer. Les multinationales ont éduqué nos mots, mais la solution pour la droite, c'est mettre des flics dans les écoles. C'est investir à fond dans la répression, et pour les gosses des cités, construire de belles prisons. Y aller, c'est devenir le prince de la cité et attirer vers soi des meufs bien éduquées entre guillemets. Prison Break fut le programme le plus regardé par la femme du foyer, bourgeois et ouvrier. Voilà l'exemple d'une société contaminée qui pense que l'économie est le remède à apporter. Tuer ses enfants, c'est mettre une croix sur l'avenir, c'est laisser faire les médias quand on n'a plus rien à dire. C'est bien d'éducation dont il est question, le pilier oublié dans la demeure de la nation. Nation laïque, athée ou intolérante, quoi qu'il en soit une nation sans valeur moralisante. Ma narration explicite sur un disque est inscrite dans un combat culturel symbolique. Les armes de l'ennemi sont les rimes sataniques, donc les miennes seront faites de références coraniques, bibliques, védiques et même sociopolitiques, écrites à l'état brut sans diplôme honorifique. Assemblées par un ciment sonore, telle est la prose ovipare pour crâne d'œuf omnivore. Avant que les cœurs de nos frères et de nos sœurs, de nos enfants, de tout enfant ne s'engourdissent dans la froideur, je tente un remède discographique qui réactive les nuques et processus encéphaliques. Accepte-le ou éteins si t'en as marre, car pour certains c'est un bien, pour d'autres un pavé dans la mare. Aux parents ignorants, bornés, aveuglés, voici un message clair, prenez le temps d'écouter. Aux parents isolés, désolés, dépassés, qui ont vu dans la jouissance la seule façon d'exister. Vous créez une génération perturbée, obsédée, formatée. Vous créez les bases d'une société sans morale, sans tabou, condamnée à s'effondrer. Aux parents ignorants, bornés, aveuglés, voici un message clair, prenez le temps d'écouter. Aux parents isolés, désolés, dépassés, qui ont vu dans la puissance la seule façon d'exister. Vous créez une génération perturbée, obsédée, formatée. Vous créez les bases d'une société sans morale, sans tabou, condamnée à s'effondrer. Viendra un temps, avant la fin des temps, où le père et la mère n'auront plus d'amour pour l'enfant. Où l'enfant commandera à ses parents, qui assommés accepteront, se soumettront à sa diction. Avant que cette prophétie ne se généralise, qui a des oreilles entendent, réfléchissent et réagissent.
An ecstasy that marks the summit of life, and beyond which life cannot rise. And such is the paradox of living. This ecstasy comes when one is most alive, and it comes as a complete forgetfulness that one is alive.
Mm-hmm.
this next.